bien que la famille, à son tour, dans bien des cas, s'effondre. Car, pas toujours, heureusement, mais parce que on ne peut pas faire supporter à un seul cercle social la totalité des charges et des missions qui, dans une vie normale, sont assignées à l'ensemble des cercles sociaux. C'est bien le problème, comme je vous l'expliquais, d'où l'importance de l'anthropologie pour comprendre la difficulté de vivre dans ce type de société. C'est que nous sommes façonnés de telle manière que nous pouvons construire notre liberté et en même temps notre bien-être que en articulant des liens qui libèrent, mais pas un seul. Un lien ne peut pas être libérateur s'il est tout seul. Même si l'enfant n'est lié qu'à sa mère, il ne pourra jamais être libre. Et donc, si un individu n'est lié qu'à sa famille, pardon, mais parce que je suppose que vous aimez bien votre famille, ben, beaucoup, mais ça ne suffit pas. Parce que si on est lié qu'à un cercle trop étroit d'individus, justement, ça ne suffit pas, ça ne permet pas d'asseoir la liberté. Ce qui fait qu'on peut avoir des liens intenses et libérateurs au sein de la famille, c'est le fait qu'heureusement on connaît d'autres gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'étouffement perpétuel. Et qu'il y a d'autres espaces de liens, de solidarité, d'affection, de communauté d'action. Donc tous ces cercles se tiennent les uns les autres, se supportent les uns les autres. Alors quand ils sont tous détruits, et qu'il n'en reste plus qu'un, ben vous avez des gens qui rentrent stressés du travail, qui voient à la télévision un monde stressant de guerre épouvantable, et qui croient que c'est seulement grâce à leur famille qu'ils vont pouvoir vivre une vie à peu près humaine. Donc ils font supporter aux autres une charge énorme, alors qu'eux-mêmes vivent dans la situation, éventuellement dans une même situation difficile et de stress, et évidemment dans beaucoup de familles, ça devient problématique, et notamment pour les enfants aussi qui vont importer tout ce stress, cette charge. Et regardez, c'est un des traits hein, de cette régression même de la conception de la famille. Le surinvestissement qu'il y a dans notre société contemporaine, justement, sur la qualité de la famille, de l'amour, etc. C'est-à-dire, nous ne supportons plus que les choses ne soient pas idéales. Regardez la masse des livres et des cours et des coachs qui existent pour avoir le couple parfait, la famille parfaite, l'éducation parfaite, etc., comme si ça existait. Mais c'est lié à ce dérèglement général de la société. C'est-à-dire, nous ne supportons plus qu'il y ait de l'imperfection dans l'affection et dans l'amour. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui reste comme espace d'humanité. Et alors évidemment, ça devient atroce. Parce qu'une relation amoureuse dans laquelle on ne supporte plus qu'il y ait des imperfections, ça devient l'enfer. Parce que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Exactement comme dans une relation amicale. Ce qui fait que ça marche bien et qui nous fait fonctionner, c'est justement qu'il faut absolument qu'il y ait l'alternance d'attachement-détachement, comme le petit enfant avec sa mère. Pour que le désir d'attachement et de fusion revienne, il faut qu'il y ait détachement. Donc il faut qu'il y ait des moments où on dit, on va lâche-moi les baskets pour aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut, pour que de l'affection, je le dis crûment, pour que l'affection revienne, il faut que de la désaffection revienne. Il faut passer donc de la désaffection à l'affection, à la désaffection, à l'affection. Et donc quand vous vivez dans une situation où des gens dans certains sectes ne supportent plus qu'il y ait des désaffections, qu'il y ait un mot de travers, que les choses ne soient pas parfaites, ça devient l'enfer, parce que ça devient de l'intoxication chimique qui détruit la relation, ça devient un lien qui enferme au lieu d'être un lien qui libère. Alors le seul espace qui restait encore, qui pendant quelques années a échappé à ce mouvement régressif à l'envers du progrès, c'était l'école. Parce que l'école est un espace au départ, mais malheureusement ça n'a pas duré, au départ c'est un espace qui est un peu qui est dans la société, mais qui est un peu à côté, d'une part parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puisque dans la moyenne des autres endroits, qui sont dans une autre relation, qui est celle d'éducation, que celle qu'il y a dans la société, et puis ils ne sont pas dans la bataille économique, ils ne sont pas dans le marché, ils ne sont pas dans la compétition économique, enfin, je dirais ils sont pas, ils n'étaient pas, voilà. Ils n'étaient pas. Et donc, pendant un temps au moins, en quelque sorte, l'école est un cercle qui fait de la résistance, est encore un espace où on a tenté beaucoup, enfin beaucoup d'enseignants en tout cas, ont tenté d'essayer de faire que ce soit un espace qui ne soit pas gagné par cette ronde infernale qui dit finalement il faut se faire de la compétition, de la lutte, il n'y a que de la performance individuelle qui compte, que le meilleur gagne et que les mauvais soient éliminés. Mais évidemment, comme je le disais pour la famille, cela vaut pour l'école. On ne peut pas faire supporter à l'école la totalité de la charge d'assurer et l'individuation des individus et leur socialisation qu'entre tous les autres cercles ont été détruits et sont laminés par le culte de la rivalité et le virus de la guerre économique. Si bien qu'on s'est retrouvé avec une école qui, d'une part, évidemment, a vu entrer, elle aussi, la violence qui est à l'extérieur de la société, ça c'était inévitable, mais surtout une école vis-à-vis de laquelle parents comme pouvoir public ont des exigences absolument contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, voyant bien qu'on est dans une société déliée où finalement il n'y a plus l'éducation, les parents réussissent moins leur éducation, on n'arrive plus à inculquer le sens de l'autorité légitime, où la société n'arrive plus à imposer des normes ou des règles, et qu'on a une société qui est devenue hyper individualiste à certains égards, ce qui était d'ailleurs le projet de politique menée et d'une certaine culture qui a été diffusée pendant 30 ans. Mais constatant évidemment maintenant les effets que cela a, parce qu'avoir des individus c'est bien, et puis quand on s'aperçoit que le fait qu'on ait des individus qui se pensent effectivement comme des individus autonomes, qui doivent définir leurs propres règles, notamment quand c'est des enfants et des jeunes à qui la société n'a pas su apprendre justement qu'il y a quelque chose au-dessus de soi, qui est l'intérêt général, qui est un certain nombre de règles que les gens se donnent pour pouvoir vivre ensemble, quand on n'a pas réussi, ce qui est le rôle de l'éducation, quand on n'a pas réussi à installer hein, cette forme de transcendance dans l'esprit, qui est de reconnaître qu'il n'y a pas que moi, il y a les autres, et que dans un comportement, il est normal d'accepter des règles qui font que mon intérêt passe après un intérêt général que je peux comprendre et que je peux assumer comme tel. Cette institution hein, du tiers transcendant l'individu, ce que les psys appellent la place de l'autre hein, dans la psyché de l'individu. Bon, à partir du moment où elle n'est plus instituée par l'éducation de parents débordés, stressés, séparés, donc c'est dans un contexte difficile, où la culture envoyée à l'extérieur par la société elle-même n'est pas du tout ça. La culture qui est envoyée par la société depuis 30 ans, même si maintenant évidemment, il y a un retour de bâton réactionnaire, ça a été non, non, l'individu roi, l'individu seul maître à bord, on ne parle que de l'individu, on ne parle pas de l'intérêt général. Quand vous voyez les politiques publiques, quand vous voyez au journal de 20 h qu'il y a une grande crise déclenchée par les banques et les spéculateurs et que les États se précipitent pour faire quoi? Pas pour sauver les malheureux qui sont légitimes, mais pour sauver les criminels, pour sauver les spéculateurs. Si vous mettez à la tête d'un adolescent qui n'est pas docteur en sciences économiques, et a fortiori d'ailleurs s'il est docteur en sciences économiques, il se dit, mais donc le modèle qui est envoyé, c'est que, bien évidemment, dans cette société, personne n'agit au nom de l'intérêt général. On agit au nom du fric, au nom de l'intérêt de ses potes, de ses copains, des puissants, mais personne n'agit au nom de l'intérêt général. Donc, quand cette figure-là a disparu dans la société, est de plus en plus difficile à installer dans l'éducation parentale, aller demander aux professeurs et à l'école, au collège et au lycée, et leur dire, ah oui, non, mais vous apprenez plus assez. À nos enfants, la règle, la norme, l'ordre, etc. Et donc avoir cette exigence d'éducation, pour dire civique ou civile, est assez saugrenue quand on considère la société dans laquelle on fait vivre les gosses en question et les gamins. Donc c'est-à-dire que là, il y a des exigences contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on demande de plus en plus ça, les parents eux-mêmes, conscients de leurs propres difficultés, voire de leurs propres défaillances, espèrent qu'au moins, grâce à la présence d'autres adultes et des professeurs, ça va corriger un peu le tir. Voilà, que leurs enfants sont un peu mieux élevés parce qu'heureusement, il y a les professeurs. Bon, donc les parents aussi participent à cette exigence-là. Mais dans le même temps, les mêmes, les parents, comme les pouvoirs publics, demandent surtout et de plus en plus à l'école de transformer leurs petits chérubins en guerriers et en combattants pour la guerre économique. Parce que tout le monde, évidemment, a une peur épouvantable de qu'est-ce qui se passe au sortir de l'école. On sait qu'ils sont livrés dans un monde de brutes, dans un monde de sauvages, où c'est la compétition, où c'est la rivalité à tous les étages, et où ceux qui ne gagnent pas la bataille seront éliminés sans pitié. C'est comme ça qu'on perçoit les choses. Et donc, bien évidemment, les parents espèrent que l'école va être ce qui va armer leurs enfants pour cette bataille, pour cette compétition. Et de plus en plus, les pouvoirs publics, dans leur politique publique officielle, et même écrite noir sur blanc, d'éducation, on le voit bien, veulent bien réorienter l'école comme un instrument au service de formations qui sont utiles pour la guerre économique. C'est même écrit noir sur blanc, hein, dans les documents de l'Union européenne depuis la nuit des années 90 sur la réorientation à la fameuse nouvelle société dans le projet de Lisbonne. Oui, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut réorienter la formation et l'éducation d'abord en priorité en direction de ce qui est utile à l'économie. Donc on demande d'un côté à l'école d'être le lieu d'un lieu d'instruction civique, en quelque sorte, et de l'autre côté d'être le lieu de la préparation à la guerre économique, à la lutte sans fin contre les autres, au culte du chacun pour soi. Évidemment, ce sont deux exigences qui sont totalement contradictoires. Je dirais, entre le camp d'entraînement à la guerre économique avec les autres et l'école républicaine d'éducation pour grandir soi-même en citoyen, il faut choisir. Vous ne pouvez pas avoir les deux choses au même endroit. Si bien que l'école, à son tour, évidemment, se trouve emportée dans cette spirale infernale. Bien.